Il y a quelques semaines, je m'entretenais avec un médecin de Québec, le docteur No, qui accepte et de soutenir et de venir en aide aux gens qui font une demande médicale d'aide à mourir. Évidemment, c'était sans savoir qu'il avait posé le geste à l'endroit d'une famille et d'un homme qui en a fait la demande. Cet homme, je pense que nous lui devons beaucoup dans notre société. C'est une des sommités reconnues mondialement pour cette affaire. Il s'agit du docteur Pierre Ferron, sommité reconnu pour ses recherches sur les implants cochléaires. Il pratiquait entre autres à Québec. Il est décédé après avoir demandé l'aide médicale à mourir. Vous allez dire, il n'est pas le seul. Il y en a d'autres également qui ont fait cette demande-là. Oui, bien sûr. Mais le volet supplémentaire que nous amenons à ce dossier, qui est particulier de l'aide médicale à mourir, c'est que oui, nous avons parlé à un médecin, mais avons-nous déjà parlé à ceux qui sont touchés par cela, c'est-à-dire non pas des gens en situation de passer de la vie à trépas, mais à cette famille ou ces gens qui sont un jour appelés pour se faire dire « Écoutez, j'ai choisi une date, c'est le 22 juin prochain ». Et j'ai demandé l'aide médicale à mourir. Nancy Ferron, vous la connaissez parce que vous l'avez vue au Petit Journal, l'avez vue à TQS. J'ai travaillé avec elle. C'est une amie au surplus. A accepté de nous parler parce que c'est la fille, entre autres, du docteur Pierre Ferron. Et elle a également deux sœurs. Nancy Ferron, bonjour.
Salut Jean-Luc, merci de me recevoir.
Ben, écoute, merci de participer à cette entrevue parce que peu de gens veulent parler de la situation et je pense qu'il faut justement faire tomber les barrières et parler de ce que ça impacte sur des gens qui sont en situation d'accompagner leurs proches dans une décision qui appartient qu'à l'individu, dans le fond, mais qui a des retombées pour l'ensemble d'une famille.
Je pense que c'est en partie mon devoir. Mon père a été un pionnier dans son domaine avec l'implant cochléaire.
Absolument.
Première canadienne, première mondiale chez un bébé de 5 mois. Il a travaillé tellement fort pour faire avancer son domaine. Puis peux-tu croire qu'il est quand même un des pionniers dans l'aide médicale à mourir?
Par son choix.
Bien, c'est totalement son choix. Mon père a reçu, il y a 2 ans, un diagnostic de maladie neurocognitive apparenté à l'Alzheimer. Okay? Alors, on va dire Alzheimer parce que ça va être plus simple. Avant, les gens ne pouvaient pas demander l'aide médicale à mourir quand ils avaient une maladie comme celle-là. Depuis le 17 mars de cette année,
ben oui.
Il y a une ouverture qui s'est faite. Mais attention, pas dans n'importe quelle condition, là, évidemment. Alors, ce qu'on a permis maintenant, c'est que les gens, s'ils étaient pleinement conscients, pouvaient demander l'aide médicale à mourir, même quand ils avaient une maladie neurocognitive. Mon père a eu vent de cette nouvelle-là le 22 mai et tout de suite. Il a fait sa demande. Il ne pouvait plus vivre en sachant ce qui l'attendait. Il le savait très bien puisque son père et son frère en sont morts. Son autre frère est atteint d'Alzheimer. 4 de ses 5 cousines.
Il se projetait dans le temps.
Et il savait très bien.
Il disait ça, non merci.
Je ne veux pas vivre cette déchéance.
Tout à fait.
Déchéance. Personne ne veut être gavé un jour, veut être dépendant du reste de la famille.
Je comprends. Nous vivons ça chez nous, dans notre famille, avec ma belle-mère. Écoute, ton père, ce pionnier de l'implant cochléaire, c'est lui qui a aider les enfants de Marie-Josée Taillefer et de René Simard.
Tout à fait.
Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour.
Allô, ma belle
Nancy. Encore une fois, mes sympathies, on s'est vus aux funérailles. Je te l'ai dit de vive voix et je te le répète, rien au monde ne nous aurait empêché d'aller le voir, d'aller vous voir. Et aujourd'hui, de vous parler, c'est mon anniversaire, mais j'ai dit, il n'y a rien qui m'empêche de prendre un moment pour penser au docteur Ferron, penser à vous, à la famille. Vous êtes tellement dans notre cœur, c'est tellement une personne qui a changé notre vie à toute la famille, de par sa passion. C'est un pionnier, c'est un amoureux des gens. C'est une personne d'exception, une personne qui n'aurait pas dû partir. Une personne qui aurait dû rester sur Terre tellement elle a fait du bien. Et tout tous ses patients disaient la même chose de lui. C'était comme quelqu'un de vraiment très particulier dans son attention auprès des gens, dans tout son génie en chirurgie. Il lui arrivait d'avoir des moments où il y a une nouvelle situation qui se présentait. Son équipe disait, il prenait un recul. Il se reculait physiquement, se croisait les mains ensemble, puis il réfléchissait. Mmh. Et il trouvait des solutions. C'est arrivé, ça, à mon fils, mmh. Jean-Luc. Mmh. Au moment de l'opération, quand il a donné l'implant cochléaire à Olivier,
oui.
C'était la première fois de sa vie qu'il rencontrait un lac veineux en faisant l'implant. C'est-à-dire que tout s'est brouillé, tout est devenu rouge de sang, il ne voyait plus rien, il savait plus où il s'en allait. Et là, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris un recul, il a réfléchi et il a trouvé une solution. Alors, c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, qui a changé notre vie parce qu'il a donné aux grands sourds un monde auquel il n'avait pas droit. En fait, c'est que nous, on a tous la capacité extraordinaire de pouvoir, c'est un don précieux de pouvoir entendre et de pouvoir communiquer facilement. Et mes enfants n'avaient pas accès à ça. Et il leur a donné ça parce que ça a été le premier qui a amené ça ici au Canada, puis qui a eu cette vision-là, mm-hmm. je dirais.
Oh, merci Marie-Josée pour ton témoignage. On est deux familles très proches parce oui. que ça fait tellement longtemps qu'on se côtoie. Et moi, de voir évoluer Rosalie et Olivier, c'est extraordinaire pour moi. C'est ça la réussite de mon père, c'est de voir à quel point tes enfants sont beaux, sont autonomes.
Il vit à travers ça pour
totalement.
Vous.
Ah, et mon père a opéré plus de 1000 sourds, a donné plus de 1000 implants cochléaires. Donc, c'est plus de 1000 personnes qui vivent dans le monde entendant, peuvent communiquer grâce à un implant cochléaire. Ça, c'est extraordinaire.
Marie-Josée Taillefer, merci beaucoup d'avoir pris le temps en ce jour d'anniversaire. Alors, on vous souhaite un joyeux anniversaire.
C'est très, très gentil.
Dites bonjour aux enfants.
C'est très gentil. Puis, je veux juste vous dire en terminant, pour ajouter à ce que Nancy vient de dire, c'est que Dr Ferron n'a pas dénaturé les sourds. Au contraire, il leur a donné accès, accès à un monde, à se définir autrement, puis à se réaliser pleinement comme toute autre personne. Et ça, je lui en serai éternellement reconnaissante.
Merci.
Alors, je vous embrasse tous les deux.
Merci beaucoup, Marie-Josée.
Bonne pensée à notre cher Pierre en haut pour toujours.
Merci bien. Je reviens, Nancy. Bon, ça, c'est sa décision au Dr Ferron, à votre père. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous appelle, il vous dit, « Hey, les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. » Quoi? Ben j'ai décidé que le 22, je ne serai plus là.
Exactement.
Ça n'a pas de bon sens.
Enfin, on en parle peu, mais c'est tellement important. Dans notre famille, on a toujours parlé ouvertement de l'aide médicale à mourir et ça a toujours été quelque chose d'accepté. C'était pas un problème. On comprenait sa décision. On allait la respecter. Ouais. C'était son choix. Tout est logique, là, dans tout ça. Le jour où il dit, ça va être le 22, on l'a su peut-être deux semaines avant le 22, là, que ça
Il vous a appelé? Vous a en convoqué? Fait, il vous a amené à souper?
Non, pas ça. On a fait un Zoom avec sa femme. Puis sa femme nous a dit, la date arrêtée est le 22. Si le Dr No accepte que ce soit le 22, le Dr No voudrait vous rencontrer toute la famille. On s'est assis avec mon père, sa femme, mes deux sœurs, mon demi-frère et le Dr No. Et là, on a passé à travers toutes les questions possibles et impossibles. Pour le Dr No, c'était important de voir s'il n'y avait pas d'influence de la famille, à quel point mon père était déterminé, à quel point il était conscient de sa décision. Okay, on parle d'une maladie neurocognitive, là. Il faut qu'il soit conscient de sa décision. Une fois que cette grande réunion a eu lieu, le Dr No dit « j'accepte de le faire, j'accepte que ce soit le 22 juin ». Là, pense-y, là, t'as un décompte.
Ben non, ben, c'est sûr, le sablier est parti, là.
Exactement.
On revient le sablier, puis on regarde ça couler, puis on dit, on est rendu le 19, on est rendu le 20.
Exact. Là, tu passes à travers tout la dernière embrassade, la dernière conversation, le dernier repas, la dernière fois où tu le prends dans tes bras. Et là, on est tous dans le salon chez lui. Et là, on jase, on parle. Lui est assez silencieux. Puis là, à un moment donné, docteur No, là, je vous parle de la journée de la procédure.
Tu me parles du 22 juin.
Le 22 juin.
Il est quelle heure?
Mon père nous avait convoqués à 1 heure. L'intervention était prévue à 2 heures. Le docteur No arrive. On est tous dans le salon. On parle. Assez anodin. Mon père parle pas. Ou peu. Sourit des fois. Et en même temps, on voit que la fatigue s'installe. Là, c'était une des conséquences de sa maladie. Et le docteur No regarde mon père. Il fait « Quand vous voulez, docteur Ferron. » Et mon père se lève d'un bond et dit « Maintenant. » Et là, nous, on fige. Ben. « Maintenant, quoi? Maintenant, tu meurs? » Oui, maintenant, je meurs. C'était ça, là. Et il se dirige vers sa chambre à coucher parce que lui avait choisi de le faire à la maison puis il avait choisi comment ça allait se faire. Alors, il se dirige vers la chambre à coucher. Nous suivons. Mmh. Il nous embrasse, chacun d'entre nous. Et là, tu dis quoi, toi? Là, tu dis « Bon voyage, papa ».
C'est ça que tu dis?
Mais oui, c'est ce que tu voulais que je dis. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas préparé quelque chose. Là.
Ben non.
Et là, il se couche dans son lit. Docteur No s'installe à côté. Sa femme se couche à côté de lui. Et nous, on est tout autour. On pleure notre vie. Docteur No s'assure une dernière fois que c'est bien sa volonté. C'est fait en douceur, là. C'est merveilleux, là. Mon père dit oui. Ils injectent, parce qu'il y a 3 sortes de médicaments. Premier médicament qui l'endort tout de suite. Mais ça, il dit « Je t'aime » à sa femme et pouf, il dort. Il dort, là. Pouf. Ça prend 1 seconde. Il dort.
Il est pas mort?
Non, non. Là, il est pas mort. Là, il dort. Mais il est très apaisé. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça fait du bien.
Il n'y a pas le visage crispé.
Pas du tout. Il n'y a pas ça. OK? Oubliez ça, là, il n'y a pas ça. Et là, Dr. No nous regarde en disant, je vais aller avec le deuxième médicament. Alors, on pleure. Alors, il donne le deuxième médicament.
À partir de ce moment-là, c'est irréversible. Dès la première injection, c'est irréversible.
On le savait, ça. Il nous l'avait bien expliqué avant. On connaissait bien la procédure. Deuxième médicament. Et là, à ce moment-là, c'est le système respiratoire qui s'arrête. Docteur No nous avait dit, il n'y aura pas de râle. Il peut y avoir 2-3 respirations profondes, c'est tout, comme quelqu'un qui dort, OK, sans plus. C'est exactement ce qui est arrivé. Troisième médicament, c'est le cœur qui arrête. Mais ça, on s'en rend pas vraiment compte, là, parce qu'il n'y a pas trop de différence, là. Et c'est fini. Ça prend 4 minutes. OK. Et là, on est tous là, dans la chambre. Lui, mais là, il est mort comme il voulait. Là. C'est parfait. Là. Il y avait la musique qu'il voulait toute. Là. C'est correct. Là. Et là, tu dis, OK,
c'est fini.
Là. J'y ai parlé il y a 5 minutes. Je l'ai embrassé il y a 5 minutes, puis là, c'est fini. Et là, tu sors de la chambre, puis là, tu es ensemble, la famille.
Ben, je suis sûr que c'est pas encore intégré.
Forcément. Non, pas du tout. Pas du tout. Et là, tu as le docteur No qui reste avec toi parce qu'il veut justement que tu commences à évacuer un peu. Avez-vous des questions? Est-ce que ça s'est passé comme vous vouliez? Bon, il est d'une humanité, cet homme, incroyable. Et là, on jase. Il reste avec nous quand même 1 heure. 1 heure après. Alors, mais là, c'est pas intégré du tout. Et là, tu as les services funèbres qui arrivent pour venir chercher le corps.
Ils étaient prévenus.
Oui, il faut les appeler à ce moment-là. Oui. On savait que sur le certificat de décès, ce serait mort d'une maladie neurocognitive. Là, ils écrivent pas que les gens sont morts de l'aide médicale à mourir. Les services funéraires n'ont pas à le savoir non plus. Alors, ils partent avec le corps. Puis là, tu te dis, OK, là, genre, c'est en 2 semaines, tout s'est fait tellement rapidement.
Bon, dis-moi, ça a beau être fait bien.
Très bien.
Quelqu'un qui est au chevet de ses proches pendant quelques jours, est en train de se faire une tête.
Exactement.
Que c'est terminé.
Oui.
Mais d'être là, puis de dire 4 minutes plus tard, il n'est plus là, il n'y a pas d'agonie, il n'y a pas de...
Non, puis comme pour les gens atteints de maladies comme l'Alzheimer, il faut être pleinement conscient. Mm-hmm. Mon père avait encore une conversation pleine et entière, là, avant. Il était capable de soutenir une conversation. Il avait perdu plein d'aptitudes, là. Plein, là.
Est-ce que l'acceptation préalable qui est théorique au moment où on en discute, parce que ça se fait autour d'un café, on jase, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est des discussions qui ont lieu dans tous les foyers, dans toutes les maisons, quand on aborde le sujet. Est-ce que ça a changé votre vision ou ça l'a conforté dans le dire le geste que nous acceptions théoriquement dans la pratique, c'est conforme à ce que l'on pensait?
Le geste en soi est primordial. Tu ne peux pas demander aux gens de souffrir. Et là, je ne parle pas seulement de la souffrance physique, il y a la souffrance morale. Psychologique, mmh. morale. Et mon père diminuait. Avec la pandémie, là, les 6 derniers mois ont été particulièrement difficiles pour lui. Et plein de choses qu'il ne pouvait plus faire et qui, pour lui, étaient dramatiques, ne serait-ce que marcher. Il avait perdu sa dextérité manuelle, perdu ses repères dans l'espace, alors il ne pouvait pas sortir sans être paniqué. Il y avait plein de choses qui se dégradaient à une vitesse folle. Alors, on comprend sa décision, on l'accepte, c'était le meilleur choix pour lui. Mais là où il y aura un grand travail à faire, ce qui va se faire dans les 2 prochaines années, c'est l'aide médicale à mourir par anticipation.
Ah oui, ça, c'est un autre débat.
Oui, et ça, oui, et ça, pour les gens atteints de maladies neurocognitives, c'est génial. Ben, génial, pas génial dans le sens.
Je veux pas parler de ça.
Non.
On va laisser ce débat-là.
Oui, non,
se
mais
faire.
Il va venir, mais ouais. ça va peut-être faciliter les choses.
Je comprends. Quand est-ce que votre deuil va se faire?
Je sais pas.
C'est différent.
C'est complètement différent. Souvent, je dis qu'on a fait notre deuil avant parce qu'on a eu comme le mois avant pour se préparer, mais c'est pas tout à fait ça parce que sa présence n'est. Ça nous manque. Ça crée un vide quand même. Puis, on considère, mes sœurs et moi, que c'est, et sa femme, puis mon demi-frère, là, que c'était la meilleure décision à prendre. La meilleure. OK? Jamais, jamais.
Pour lui.
Pour lui.
Et pour vous?
Pour l'entourage, c'est extrêmement difficile de vivre les quelques jours précédents. Pire pour sa femme, là. Imaginez, là, tu dors avec lui la dernière nuit, là.
Salut, comment ça va? Bonne nuit, chérie.
Oui,
le
premier,
lendemain, il n'est plus là.
Le matin, tu te lèves, tu dis, c'est notre dernier déjeuner ensemble, chérie.
Oh. Et tout le rituel fait en sorte que ce n'est pas une mort subite.
Non.
Tu sais, quelqu'un, tu te réveilles le matin, ton mari n'est plus là parce qu'il est mort durant la nuit. C'est une chose. Mais là, c'est une mort annoncée.
C'est vraiment... l'image est bonne. Hein? Le sablier, là, c'est... Exactement ça. Et là, t'es dans les derniers. C'est dur parce que toi, là, comme être humain, tu dis, OK, là, c'est la dernière fois que je lui parle. C'est la dernière fois que je le prends dans mes bras. C'est la dernière fois que je mange avec lui. Oh my God! Autant c'est important, l'aide médicale à mourir, autant je pense que ça va demander du soutien pour les proches.
Pour les survivants. Ouais,
oui.
Bien sûr.
Un suivi pour ceux qui en auront besoin, parce que ça reste un traumatisme pour l'entourage.
Tout à fait, j'en suis convaincu. Et je pense que l'accompagnement des amis et des autres membres de la famille sont importants pour soutenir ce deuil-là qui est arrivé de façon précipitée et annoncée. C'est pas la même dynamique, j'en suis convaincu, au point de vue psychologique, pour ceux qui sont survivants de cette affaire. Nancy, je veux te remercier. D'abord, de ta générosité, je sais que tu en as parlé à tes sœurs, tu ne serais pas venu ici sans qu'il y ait ce consensus familial, mais merci de la charité de partager cette situation qui va aider à des gens qui l'ont vécu, qui n'ont pas pu le manifester et le dire, et qui va faire comprendre qu'est-ce que c'est que cette démarche pour ceux qui n'ont pas encore songé à cette éventualité, à ce scénario-là.
Mais merci de l'invitation. Puis je veux juste souligner que des fois, il n'y a pas de hasard dans la vie, là, mais aujourd'hui, on est le 22, donc ça fait exactement... un mois à cette heure-ci, à quelques minutes près, que mon père est décédé. Alors, je te dis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Probablement qu'il voulait qu'on en parle.
Probablement. Et connaissant cet homme d'une ouverture d'esprit très grande, je suis sûr qu'il est content qu'on en parle. Merci bien,
Nancy.
Au revoir. On s'arrête pour une pause.